Depuis quelque temps maintenant, ils cartonnent, ils s'exportent. Ce sont nos humoristes suisses. Et Suisse romande, pour en parler, une genevoise, Julie Conti, bonjour.
Bonjour, comment ça va?
Mais ça va très bien, au vu du sujet, forcément. Vous n'êtes pas seul, j'accueille également Jérémy Croza, bonjour.
Bonjour.
Cette joyeuserie fribourgeoise que l'on entend, nous allons donc parler humour, votre prisme, vos regards croisés et vos spectacles. Qui, alors ça c'est quand même un lien que vous avez tous les deux, qui parle, allez, je vais faire mon Nikos, qui parle vrai, c'est-à-dire que vous ne mettez pas trop de filtres sur ce que vous nous racontez.
Bah non, effectivement, moi je mets pas de filtre, je raconte ma vie. Des fois je me dis que c'est un peu de l'arnaque, parce que j'ai rien besoin d'inventer. Mais non, effectivement, je mets pas de filtre, je parle de moi sans détour, on dirait.
Et en vrai, si on mettait des filtres, ben, je crois que ce serait pas drôle.
En Suisse romande, on aime bien parler surtout de nos différences. Alors, les fribourgeois, par exemple, n'est-ce pas, Jérémy, vont se moquer des genevois qui sont peut-être plus des fois un département français qu'un bout de la Suisse, quand les genevois vont dire, oh, ben, dis donc, les vaudois, etc., etc. Mais on arrive quand même à tous se réunir ensemble et à rire des mêmes choses. Je trouve ça assez beau.
Alors, petite rectification, les fribourgeois se moquent pas des genevois, c'est tous les Suisses romands qui se moquent des genevois.
Allez.
Alors...
C'est sympa.
Rectifie quand même pour dire qu'on n'est pas les seuls.
Ouais, je suis assez épaté de voir qu'on arrive à rire de choses qui soient intelligentes, mais qui font rire tout le monde, parce que sinon c'est trop facile d'aller chercher le plus petit dénominateur commun.
Ce qui fait rire les gens, c'est ça, ils se reconnaissent. Donc, effectivement, il faut partir sur des lieux communs et des choses que là où les gens vont aussi se retrouver, quoi. Si c'est vraiment trop personnel ou ben, trop régionaliste ou des choses comme ça, ben, on n'arrive pas à atteindre tout le public, quoi.
Mais en même temps, c'est ce qui fait que on vient vous voir, le fait que vous parliez de choses très personnelles. Julie, par exemple, Julie Conti, on sait que vous allez parler de vous, de votre famille, de vos enfants, de votre mari, parfois de votre fort intérieur, parce que j'ai pas envie de le dire autrement, on est à la radio. Mais voilà, on vient pour vous écouter, vous.
Ben, on connaît, ben, disons que je parle de ce qui m'entoure et de ce que je connais. Donc, je parle de mon expérience en tant que femme, en tant que mère, dans le monde professionnel et des différentes étapes que j'ai traversées, notamment enfin, dans la vie de couple ou dans la parentalité, effectivement, quoi. Et je trouve que c'est des choses que les gens peuvent facilement se reconnaître. Et en plus, le lendemain du spectacle, c'est la fête des mères. Donc, je crois que c'est un bon moyen de venir voir le spectacle. C'est une bonne idée pour comme un petit moment de défouloir, là, pour tous les parents, ça fera du bien.
Avantage Julie Conti, parce que Jérémy Croza, vous parlez vous aussi du fait d'être devenu papa.
Oui, exactement. Je parle, bah, comme Julie l'a dit avant, je parle de ce que je connais, ce qui m'entoure. Et je parle aussi de mes doutes, de mon manque de confiance en moi, de plein de choses comme ça. Et en fait, moi, c'est en travaillant mes sketchs que je me rends compte que beaucoup de gens se retrouvent dans ce que je dis. Parce que vu que je suis un petit gars de la campagne fribourgeoise, je me suis dit, je sais pas si ça parlera à tout le monde. Et puis au fur et à mesure, quand je fais mes trucs, je vois qu'il y a plein de gens qui se reconnaissent, en fait.
Parce qu'en fait, l'idée, c'est toujours de parler de soi pour parler de sujets qui sont finalement plus vastes. Par exemple, moi, quand je parle de mes relations avec mon copain ou alors de mes enfants, mon idée, c'est pas juste de faire un storytelling et de raconter ma journée avec mes gamins ou avec mon mec. C'est juste que je veux parler, par exemple, des inégalités dans la perception dans le couple entre les hommes et les femmes, de ce que ça représente par rapport à la vie privée, de se retrouver tout d'un coup avec des enfants, des choses comme ça. Donc, je parle d'expérience personnelle, mais pour toucher sur des thématiques et des choses plus larges, en fait. On pourrait toucher plus de monde.
Est-ce qu'il y a vraiment un humour suisse? Parce que on disait, l'humour, c'est de parler de soi et de faire en sorte que les autres se reconnaissent dedans, mais est-ce qu'il y a une suissitude dans l'humour? Est-ce que c'est votre sentiment, Jérémy Croza?
Ben, moi, je pense pas qu'il y ait une suissitude. Il y a une manière de travailler différente des francophones, enfin des Français, par exemple, qui ont beaucoup plus d'opportunités de jouer que nous, de tester leur truc. Donc, nous, on travaille plus l'écriture avant d'aller sur scène, en fait. Mais je pense que dans les sujets, à part si, ben, bien évidemment, on parle directement de la Suisse, mais autrement, dans les sujets, dans ce qu'on dit et tout, je pense qu'il n'y a pas vraiment de suissitude.
Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Après, bah voilà, des petites intonations, des petits accents qu'on n'a pas tous pareils, mais sinon c'est assez proche. Mais c'est vrai que le fait ils ont un petit avantage, par exemple sur Paris, c'est qu'effectivement eux, en une soirée, ils peuvent jouer des fois faire quatre plateaux, alors que nous, si on arrive à en faire deux dans la semaine, c'est déjà un miracle. Donc c'est peut-être ça. Ouais, il a raison, la grosse différence entre nous et puis par exemple des humoristes parisiens.
Oui, puis j'ai l'impression que le concept même de comedy club s'est énormément développé. Aujourd'hui, vous avez des endroits, notamment à Paris, où on pourrait presque penser que, je ne sais pas moi, un petit bout de salon, ça devient aussi un comedy club, mais ça permet aussi de rôder des spectacles, ça permet aussi, pour celles et ceux qui vont dans ces comedy clubs, et on en a aussi à Genève, d'aller voir des choses qu'on ne reverra jamais parce que vous les rôdez aussi, ces choses-là, Julie.
Oui, complètement. Des fois, l'idée, on peut venir sur des plateaux qu'on fait des formats ouais, de plateaux qu'on appelle. Donc, c'est plusieurs humoristes qui succèdent qui font en général à peu près 7 ou 10 minutes de blagues. Et puis, on vient tester. Puis, on regarde, ça fonctionne, on garde pas. Ça fonctionne pas, on jette. Et donc, c'est vraiment un travail d'itération que c'est assez différent du théâtre classique où on vient, on répète. Et puis, il y a une première. Et là, on fait le spectacle. Et puis, après, on le tient jusqu'au bout. Qu'en stand-up, en fait, on construit le spectacle et nos blagues avec le public. Finalement, c'est leur réaction qui dira si oui ou non ce qu'on vient de faire sur scène va rester ou pas.
Et est-ce que ça rend la chose plus vertigineuse ou plus intéressante?
Bah, disons que c'est intéressant comme ça fonctionne, mais c'est vrai que quand on prend des bites, ça peut être difficile. Et mon conseil est quand même de quand ça marche pas, bah, il faut vite retourner derrière et faire autre chose parce que sinon c'est un peu déprimant. Non, Jérémy, t'en penses quoi?
Sais pas, ça marche tout le temps pour
Oh
Bam! Cela dit, bonne vanne. Donc, comme quoi, oui, effectivement, ça fonctionne tout le temps. C'est tout à fait juste. J'ai quand même le sentiment qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle trajectoire. Je vais vous dire mon sentiment. Vous allez me dire si c'est correct ou pas. Une trajectoire pour les humoristes. Il faut d'abord, évidemment, avoir un petit peu de matière. Ensuite, il faut de la visibilité. Pour ça, on va faire des chroniques radio et puis filmer aussi les interactions avec le public, plutôt des improvisations, donc des choses qu'on ne va pas retrouver ensuite dans le spectacle, afin d'exister continuellement sur les réseaux. Ensuite de quoi, grâce aux gens qui regardent ou qui écoutent les chroniques sur les radios, on peut jouer son spectacle dans des salles de plus en plus grandes, idéalement en France, avant aussi d'exploser en Suisse. Ça, c'est le ressenti que j'ai, moi, dont ce n'est pas le métier. Est-ce que c'est votre sentiment d'abord, Julie, et ensuite Jérémy?
Grosso modo, ouais, c'est assez proche, mais je pense que c'est vraiment quand même les réseaux sociaux qui sont stratégiques. Beaucoup de salles maintenant, enfin, surtout sur Paris, en fait, ils regardent pas, ils regardent d'abord le nombre de followers avant de voir l'efficacité sur scène. Il y a pas tellement, c'est pas forcément des auditions et tout. Donc c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est un peu maintenant le nerf de la guerre, quoi. Au-delà du fait d'être drôle, après, il faut venir sur scène et puis avoir des bons textes et être drôle et tout ça. Mais c'est vrai que maintenant, c'est vraiment une condition sine qua non. Non, Jérémy?
Alors oui, effectivement, les réseaux sociaux, moi je trouve ça un peu triste, mais c'est ça qui fait la différence maintenant. C'est le meilleur moyen de se montrer. C'est où, en tout cas, moi je suis pas performant, donc c'est ça mon problème, mais il faut que je travaille sur les réseaux sociaux.
Notre problème, on
Mais
est pareil les deux.
oui, mais je voulais pas parler pour toi, mais je pensais exactement ça. Moi, je pense pas que c'est justement aller à Paris et revenir maintenant qu'il y a les réseaux sociaux. Justement, je pense que ça change la donne. Si on expose sur les réseaux sociaux, bah, ça change tout en fait. On n'est pas obligé d'aller à Paris
Oui.
entre deux, ou bien même c'est Paris qui va venir vers nous parce qu'on est exposé sur les réseaux sociaux. Donc,
Ouais,
je pense que
alors
ça
ça, je suis
change
assez
depuis.
d'accord aussi. Ouais.
Ouais. Depuis 5-6 ans, là, je pense que ça a totalement. Ouais, peut-être 10 ans. Ouais, non, 5-6 ans, je pense que ça a complètement changé de fonctionnement du monde, en fait.
Avec le fait que ce soit finalement une trajectoire que vous avez suivie tous les deux. Ensuite, Jérémy, vous avez eu des enfants, on va en reparler, mais Julie, c'est précisément ce que vous êtes en train de faire. Vous jouez toutes les semaines à la Petite Loge, qui est une salle connue à Paris, ou qui est la salle, je veux pas dire on démarre parce que ce serait vous manquer de respect, mais c'est la salle
Non,
où
si, c'est ça.
on va prendre du public, lentement mais sûrement, avant d'aller jouer ailleurs en France. Je pense à Yann Marguet qui est en train de faire ça en ce moment. Mais ça veut dire qu'il faut être bon RP, et puis accessoirement, bien gérer les enfants, ce que ça veut dire que vous le faites mieux que Jérémy?
Non. Non,
Alors, ce sont pas les mêmes enfants, hein, je le précise pour les gens qui nous écoutent.
on n'a pas les enfants ensemble. On aurait peut-être dû, ça aurait... Ouais, non, que ça aurait été trop compliqué. Non, bah, gérer les enfants, je pense que ça, c'est comme toutes les personnes qui travaillent. Je crois pas que ça soit une question. Et puis ouais, bah, c'est une question d'organisation, mais ça change pas pour moi ou pour d'autres personnes qui ont des enfants ou qui font n'importe quel boulot. Effectivement, je pars un jour et je reviens le lendemain soir, mais en vrai, le matin, je vois mes enfants avant de partir et le lendemain, j'arrive à les chercher à 17 h à l'école. Donc, c'est juste une question d'organisation, mais ça se fait, quoi.
Et Jérémy, alors vous êtes mal organisé à rester à Fribourg? Enfin,
Non,
plutôt être
mais moi, je l'ai
revenu à
fait.
Fribourg, c'est ça que je voulais dire.
Non. Non, moi, je l'ai fait avant d'avoir des enfants. Une fois que j'en ai eu, j'ai arrêté d'aller à Paris. Et en fait, je me suis rendu compte que ça ne me manquait pas, Paris aussi, c'est ça, quoi. Je suis bien ici, j'avoue que j'ai mon petit confort, et puis ça se passe bien. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas y retourner une fois, mais actuellement, en tout cas, je préfère être à la maison et proche de ma famille, quoi.
Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Jason Alexander qui jouait le personnage de George Costanza dans Seinfeld, qui est la plus grosse série de tous les temps, etc., etc., et qui dit l'humour, c'est du sérieux. C'est-à-dire, oui, on est là pour rigoler, mais faut bien le faire. Vous partagez ce sentiment?
Alors moi, je pense que oui, l'humour, c'est du sérieux, c'est que on doit faire semblant, enfin, donner l'impression aux gens que c'est facile, mais en fait, c'est très travaillé, minuté, c'est du rythme, c'est des silences, c'est quel mot on choisit. On a travaillé vraiment le texte à fond pour que ce soit quelque chose qui paraisse facile et qui soit drôle, quoi.
Ouais, c'est complètement ça, c'est de jouer la facilité. Et c'est ça le gros du travail. Et donner l'impression que c'est spontané ou que c'est quelque chose, un document, enfin, un moment unique, le spectacle. Et puis, au fait, ça se répète et c'est millimétré. Moi, ouais, je suis complètement d'accord avec Jérémy.
Mais il y a quand même un grand classique. Vous allez voir un musicien sur scène, il vous fait ses meilleures chansons. Vous dites, ah, c'est génial, il l'a faite, celle-là, je l'adore. Si je viens voir Jérémy Crozat sur scène, qui me fait le sketch que j'avais vu déjà il y a 2 ans, oh, dis donc, il s'est pas vraiment renouvelé. Il y a une perception de l'humour qui est très différente.
Moi, j'ai l'impression que ça dépend les sketchs. C'est bizarre, hein, mais
Ok.
ouais.
Oui, je pense.
Effectivement.
Il y a certains humoristes qui sont très connus qui disent, bah, des fois, c'est relou parce que les gens ils viennent et ils nous demandent le sketch pour lequel ils ont été connus ou comme ça. Mais je crois que c'est aussi lié ce truc à la musique et puis à l'humour de les comparer. C'est peut-être pas forcément la même chose parce que ce n'est pas les mêmes sentiments qu'on ressent. L'humour, il faut être surpris. Et c'est vrai que quand on revient, puis on connaît le texte, au bout d'un moment, la surprise, elle passe, et puis ben, c'est un peu éculé, puis du coup, c'est moins que de la musique, c'est un autre sentiment qu'on reçoit et qui n'a pas forcément besoin d'avoir ce côté de surprise. C'est même rassurant d'avoir une musique qu'on connaît, qu'on peut chanter et tout. Et du coup, je trouve que c'est vrai que ça marche pas forcément cette comparaison entre les deux, et que je peux comprendre que les gens, quand ils viennent voir quelqu'un 2 ans après, puis c'est la même chose, ils sont un petit peu déçus, quoi.
Mais quoi que ça pourrait être drôle quand même, hein, de faire une blague en disant, là, le mec, il arrive dans le bar et il dit, ah vous, et tout
Ouais.
le public
Mais cela dit, il y a encore des publics qui ne sont pas trop aguerris à l'humour. On en parlait avant d'attaquer l'enregistrement avec Jérémy Crozat. Ce sont les enfants.
Alors, c'est un peu un mystère pour moi, mais dans mes dates de spectacle, j'ai tout le temps des enfants qui viennent me regarder. Et j'ai même, petite anecdote, volé une fois la vedette à Harry Potter. C'était à Londres, au studio Universal, et tout à coup, il y a trois enfants qui me regardent. Au début, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, bon, ils m'ont peut-être confondu avec Hagrid. Et après, il y a leur papa qui est venu vers moi. Il y a leur papa qui est venu vers moi, puis qui m'a dit, vous êtes Jérémy Crozat? Je dis oui. Ah,
Mais
mes enfants,
non.
ils sont fans de vous, ils peuvent faire une photo. Et du coup, j'ai fait une photo des gamins, donc ils étaient dans le studio Harry Potter, ils ont fait une photo avec moi, quoi.
C'est trop
Donc, c'est
chou.
Mais
Mais moi, je dois dire que si je jouais devant les enfants, je demande, moi, il n'est pas à moins de 18 pour mon spectacle.
ouais.
Et je pense que je traumatiserais, mais ce serait un petit peu mon rêve de faire un spectacle pour les enfants drôle, parce que moi je suis vraiment comme dans Monstres et Compagnie, quoi. Le rire des enfants, je trouve que c'est une source d'énergie de malade. Et à la maison, avec mes gosses, j'aime bien des fois à faire un peu la folle et leur faire des blagues et vraiment faire rire des gamins, c'est incroyable et je rêverais trop de pouvoir faire un spectacle pour enfants.
Il y a un truc à faire. Et
Ouais.
peut-être que
Pas,
Jérémy, vous
pas,
pourriez
pas.
inviter ce papa qui s'est dit, attends, je paye un séjour à mes enfants pour aller dans l'univers Harry Potter, tout ça pour qu'ils tombent sur Jérémy Crozat.
Serait micro.
C'est pas sympa.
En tout cas, ça rapporte pas la même chose.
À part ça, est-ce que sincèrement, on pourrait alors imaginer un spectacle d'humour pour les enfants qui soit autre chose que Coucou, je t'ai volé ton nez?
J'ai fait un plateau devant des enfants et un plateau devant des ados. Et je me suis dit, effectivement, ce serait cool à faire une fois. C'est compliqué parce que, bah, effectivement, à part la licorne qui pète et puis tire sur mon doigt et puis je t'ai volé ton nez, je pense qu'on a vite fait le tour, mais. Mais il y aurait
Moi, ça me
peut-être
fait
un
marrer.
truc à creuser. Ah oui, bah, pour moi, c'est les meilleures blagues. Hein, mais d'ailleurs, d'ailleurs, c'est mon prochain spectacle où je vais mettre tout ça dedans.
La
Non,
licorne
mais
qui pète.
je pense qu'il y aurait quelque chose à creuser, effectivement, et que ça pourrait être cool de faire un spectacle de stand-up pour les enfants.
Alors, Jérémy, l'antenne est à vous. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous raconter, ce qui n'est pas le cœur de votre spectacle actuel, bien sûr, mais nous raconter la licorne qui pète?
Non, je veux pas spoiler mon prochain
Oh,
spectacle.
ok, d'accord. Julie continue.
Comme on a dit avant, si les gens ils connaissent déjà les blagues, ça va pas. Donc, je vais
Voilà,
garder
c'est
pour
ça.
la surprise.
C'est ça, il s'en est bien sorti. Julie Conti, on vous connaît pour votre humour. Est-ce que c'est le mot cru? En tout cas, la manière de raconter les choses qui est très directe, on va le dire comme ça. Est-ce que vous avez encore le sentiment qu'il y a une dichotomie entre, pour dire les choses, quand les hommes parlent de leur pénis, c'est drôle, quand les femmes parlent de leur vagin, oh, dis donc, celle-là alors?
Moi, ce qu'il y a, c'est qu'en tout cas, je suis un petit peu. Bah, disons que je suis directe. J'ai toujours été directe, et ça, je le suis aussi dans la vie. Et j'ai un personnage sur scène qui est un petit peu encore plus poussé que, que ce que je suis dans la vie. Et je m'interdis un peu rien. Et c'est vrai que j'aime bien utiliser des ressorts comiques qui soient assez crus. Et en vrai, souvent, après mes blagues, elles ont un fond. Genre, je parle pas de ma chatte, comme vous dites, juste pour parler de ma chatte. C'est juste que je vais ramener et qu'il y a un propos derrière. Mais c'est vrai qu'il y a encore ce truc-là. On choque plus facilement si c'est une femme qui vient avec des propos comme ça que si c'est un homme. Si moi, je fais des blagues sur mes enfants, sur le fait d'avoir des enfants, des choses comme ça, ouais, c'est encore une femme qui parle de ses gosses. Un mec va dire ça. Oh, mais c'est tellement attendrissant. C'est un bon papa. Il s'occupe de ses enfants. Enfin, mais ça, c'est juste l'histoire de
Et
notre
on se
société, quoi.
calme.
Donc c'est un peu l'histoire de... Enfin, c'est la société qui est comme ça, donc c'est un peu compliqué que sur scène, mais pour l'humour, ça soit différent. Mais je l'assume assez d'avoir comme ça des propos assez directs. Mon copain, l'autre jour, il m'a dit que j'étais un petit peu... J'avais les propos de... Ouais, j'étais une féministe, mais qui a une façon de parler comme de... Comment il s'appelle, là? Celui qui chante, là, la caquette à Raoul, là.
Patrick Sébastien.
Patrick Sébastien.
Voilà.
Allez,
Je crois...
musique!
Je suis une féministe... Je suis féministe, mais... Mais avec le flow de Patrick Sébastien.
Patrick Sébastien qui vient de sortir Tu l'as vu mon cul, donc effectivement,
Oh, gros
voilà.
carton, il fait des millions de vues. Alors lui, il peut aller dans tous les théâtres qu'il veut, je pense.
Alors moi, c'est le contraire. J'ai des propos de Patrick Sébastien avec le flow d'un féministe.
Mais je reste avec ce que vous disiez, Julie Conti, parce que vous parlez de votre copain. On peut quand même lui rendre hommage. Il faut aussi être bon joueur de s'en prendre, alors amicalement, mais plein la gueule, parce que pour
Ah mais il
étayer un
s'en prend
propos
pas du tout.
secondaire.
Mais en fait, si vous écoutez, alors venez au spectacle, je vous invite vraiment à le faire parce que je tombe pas du tout dans l'écueil de mon copain, je ne critique jamais. C'est une
Ouais, c'est vrai,
célébration
vous
de
avez...
lui,
Non,
il
c'est
est
vrai, c'est vrai.
exceptionnel. Et en vrai, si vous n'écoutez le spectacle, limite, je suis agacée à dire à quel point il est génial et qu'il est super. Et vraiment, 80% du spectacle, c'est pas du tout la femme qui se plaint de son mec parce que c'est un gros con, nanana, nanana. Je dis juste, bah, moi, je suis géniale parce que j'ai choisi un mec qui est génial et il est super. Et c'est plutôt ça, en fait, le propos du spectacle. Et il s'en prend pas du tout plein la gueule. Et après, effectivement, je parle de choses qui sont liées à notre vie, à nous deux, que j'ai toujours validées avec lui avant de monter sur scène et tout ça. Mais ça fait aussi, c'est aussi ma vie. C'est pour ça que je me permets d'en parler. Mais en fait, il ramasse pas du tout. Il y a aucun moment où je dis, où je le critique. C'est plutôt une forme de célébration. Le nombre de fois, il se prend des applaudissements dans le spectacle. Alors, je dis, bon. Et vraiment, où les gens disent, oh, il est super et tout. Je dis, ouais, bon, c'est moi qui suis en face de vous. Mais bon, bref. Et en vrai, c'est pas tellement lui. Il se ramasse pas, il s'en prend pas du tout plein la gueule, au contraire.
Jérémy, je connais pas votre histoire personnelle, mais est-ce que vous dites du bien de la mère de vos enfants sur scène?
Toujours, toujours du bien. C'est rare que je dise du mal des gens, mais. Enfin, moi, c'est plutôt que je parle de mon mal à moi, c'est un peu ça. Dans ce milieu des enfants, de ma femme, de ma famille, c'est plutôt moi qui ramasse le plus, en fait. Je parle des problèmes que j'ai, que je rencontre, de confiance, des moments de lose qui arrivent un peu à tout le monde dans la vie. Et justement, je pense qu'il y a des gens qui doivent se dire, ah putain, je suis pas tout seul. Et il y en a pas mal qui se disent ça, visiblement, qui disent, ah ouais, donc c'est normal d'avoir ces problèmes, en fait.
Vous connaissez tous les deux très bien l'exercice des chroniques radio. Il y a quand même une spécificité là-dessus, hein, Jérémy, le fait d'avoir une écriture condensée, ramassée avec un début, un milieu, une fin en plus ou moins 3 minutes, pour aussi dire aux gens venez me voir sur scène, pour voir autre chose. Donc il faut quand même être dans le même propos, mais pas trop non plus. Enfin, c'est pas simple.
Ouais, effectivement, c'est pas simple parce que les gens pensent que c'est le même exercice, alors que moi, je trouve que c'est pas du tout le même exercice. Mais du coup, c'est difficile à faire passer ce qu'on fait sur scène un peu à la radio pour que les gens se rendent compte et viennent. Mais faut essayer de se rapprocher le plus pour pas que les gens soient surpris, enfin, qui se retrouvent pas, enfin, qui retrouvent pas ce qu'on raconte aux chroniques dans nos spectacles, quoi.
Ouais, je trouve que l'exercice est assez différent. Moi, la grosse source de stress en ce moment avec les chroniques, c'est de trouver des thématiques. Parce que bah, quand c'est toutes les semaines et puis qu'il y en a énormément qui passent à la radio, tout ça et tout, des fois, c'est juste ah, sur quoi je vais écrire. Et là, la petite pause de Pâques m'a fait du bien parce que j'avais vraiment besoin de prendre la distance. Parce que c'est vraiment le truc de toutes les semaines trouver des nouvelles choses à raconter. Et c'est un peu l'exercice au moment. C'était assez intense, quoi. Et c'est plus ça, c'est
Ouais.
de choisir sur quoi on va écrire.
C'est aussi le plus gros problème que j'ai, c'est de trouver les thématiques au bout d'un moment. Parce que quand on fait une à deux chroniques par semaine,
Ouais,
et
c'est
au bout d'un
ça.
moment, des fois toujours sur l'actu, donc au bout d'un moment, on se retrouve à parler d'un chien qui a mangé 43 chaussettes parce qu'on sait plus de quoi
Le
parler, quoi.
pauvre.
Entre elle et les cornes qui pètent, dis donc.
Ouais.
Voilà, faut trouver des thématiques, faut être drôle, etc. J'ai l'impression qu'il y a parfois un tabou dans l'humour qui est celui d'avoir des co-auteurs. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais on n'aime pas trop le dire en règle générale. Et pourtant, si à la fin, c'est pour avoir la meilleure chronique possible, le meilleur spectacle possible, est-ce que c'est si terrible?
Non, moi j'ai pas de problème avec ça. J'ai des gens qui m'aident à écrire. Pour mes chroniques sur France Inter, c'est Thomas Wiesel qui me donne des coups de main. Des fois, j'ai demandé à Benjamin Decoster, des fois à Neil Maxwell. J'ai vraiment zéro problème avec ça. En fait, on doit en faire toutes les semaines, moi, je trouve que, et c'est plutôt cool. Et en vrai, en fait, c'est un exercice qui est hyper solitaire, l'écriture et le stand-up. Et moi, ça me fait trop plaisir de pouvoir écrire avec d'autres personnes, puis d'avoir d'autres aides. Ou même des fois, voilà, avec Jérémy, on s'est posé des après-midi à discuter, à se raconter des conneries. Ça fait du bien. Et moi, en fait, ce truc de co-auteur, je le vois aussi comme une façon d'avoir des collègues. Et je crois pas que ça soit un tabou. J'ai l'impression que les gens, ils le disent assez facilement. Moi, pour la RTS, je travaille aussi avec Thibaut Agoston. Enfin, non, je crois pas que. Enfin, en tout cas, moi, je vois pas trop de problème à le dire si je travaille avec des gens, quoi.
Il y a un autre. Alors, moi, je pense qu'il n'y a pas de tabou non plus. Bah, moi, je suis plutôt au travail tout seul, mais de temps en temps, envoyer des trucs à justement des copains humoristes, leur demander ça, t'en penses quoi? Bah, t'as pas une blague là. Mais non, je pense que c'est pas trop tabou. Ce qui est plus tabou, c'est les vols de blagues, où c'est un
Ouais,
peu
mais ça,
tabou.
faut pas faire.
Mais ça se fait
Ouais, bah
encore
non,
aujourd'hui.
effectivement. Non, mais faut effectivement. Pardon?
Ça se fait encore aujourd'hui, il y avait eu ces affaires copie comique, etc. Je sais qu'il y a des gens qui écrivent des blagues, les trouvent super, après se rendent compte que ce ne sont pas les premiers à les faire, mais le vol de blagues, ça se fait encore?
Oui, bah ça se fera toujours, je pense, en fait.
Parce qu'on peut quand même retrouver une traçabilité beaucoup plus facilement qu'il y a 20-30 ans.
Ceux qui s'en fait attraper avec ça, finalement, ça n'a rien changé du tout, donc ça continue.
Julie, vous aviez commencé une phrase.
Non, j'allais dire à Jérémy, démerde-toi, c'est toi qui as commencé à parler ça.
Moi, j'ai pas peur de le dire, alors je m'en fous. Je m'en
Mais
fous, je suis de la campagne fribourgeoise, donc.
est-ce que l'un comme l'autre, on vous a volé des blagues?
moi, des petits. Non, je dirais pas que c'est volé. Non, non, moi, on m'a pas volé des blagues.
Moi, oui.
Toi, Jérémy, oui, ouais.
Oui, que j'ai vu à la télévision.
Et est-ce qu'on est certain que c'est du... Je suis pas enquêteur, hein, mais est-ce qu'on est certain que c'est du vol parce qu'une bonne blague, elle peut arriver dans la tête de deux personnes?
Ouais, mais ça dépend comme elle est tournée et comme elle est dite. Il y a de toute façon des trucs qui se ressemblent. Au bout d'un moment, on a tellement d'humoristes, tellement de stand-uppers, tellement de chroniqueurs. De toute façon, il y a des blagues qui reviennent, ça c'est sûr. Mais des fois, quand tu as joué avec la personne 2 mois avant, qu'elle t'écoutait, puis que 2 mois après, tu vois ta blague mot pour mot à la télévision, c'est un peu un hasard bizarre. Quand même.
Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On peut rien faire d'autre que de dire dis donc pas cool.
Bah, quand on n'est pas connu, on fait rien, puis voilà.
Ouais, on peut même pas dire pas cool. Parce que même si on a nos textes, ils sont déposés ou quoi, enfin, il n'y a pas de valeur. On
Non,
peut pas
pas
aller
vraiment.
récupérer des trucs pour ça.
Le truc à faire, c'est juste se dire bah écoute, je vais en écrire une encore meilleure, quoi.
Donc ça reste aussi un concours de popularité, finalement, votre métier.
Ah bah c'est quand même ça la base du truc, pour que les gens viennent nous voir. Et puis pour qu'ils viennent nous voir, faut qu'ils nous connaissent. Donc effectivement, il y a ça.
Comment on fait pour renouveler ça, cette popularité-là? On parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, mais c'est un ogre, les réseaux sociaux. Il faut toujours alimenter, et une fois qu'on alimente beaucoup, il faut alimenter encore plus, parce que sinon on disparaît des algorithmes.
Ouais, bah alors là, franchement, moi, je peux pas vous
On n'est pas
répondre parce que je...
des spécialistes.
On est
Ouais,
vraiment les pires pour ça, quoi.
mais en
Enfin,
même
je
temps,
veux dire,
Julie, vous êtes sur
même...
la première radio de France toutes les semaines, donc forcément, ça
Ouais,
aide aussi à créer du contenu.
mais j'ai fait une soixantaine de chroniques sur France Inter et j'ai dû en poster trois ou quatre parce que je passe pas de temps là-dessus et vraiment, j'en suis pas fière. Hein. C'est juste que je prends pas le temps puis c'est stupide. Mais c'est que c'est pas mon truc, quoi. Et du coup, vraiment, moi, répondre à ça, ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, je suis nulle là-dedans, objectivement.
Et Jérémy aussi, donc j'ai cru comprendre.
Oui, on est en train de monter un plan avec Julie Conti et on va dominer le.
Ouais,
Dominer le
dominer
monde
le.
des réseaux sociaux dans pas longtemps.
Alors je pense que je parle pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. On préfère que vous soyez bon en humour qu'en RP.
Ben
voilà, merci. C'est
Julie
exactement ça.
Conti et Jérémy Crosa. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci, c'était trop sympa,
Merci.
merci beaucoup.
C'était super. À bientôt.